France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le mercredi 3 juillet. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la parité au sommet de l'Europe. Et pour la première fois, deux femmes nommées aux deux postes les plus prestigieux. L'Allemande Ursula von der Leyen présidera la Commission européenne et la Française Christine Lagarde, la Banque centrale européenne. On en parlera. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas.
Avec votre invité à 7h50.
Absolument. Qui a gagné? Qui a perdu? Est-ce une victoire pour le couple franco-allemand? Quelles leçons tirer de ce mercato européen? Réponse de la secrétaire d'État aux affaires européennes qui rentre tout juste de Bruxelles. Amélie de Montchalin sera notre invitée à 7h50.
À tout à l'heure Léa. Les autres titres Agnès.
La guerre des traités commerciaux après la polémique Mercosur, la polémique CETA, le lancement d'une enquête sur l'état de santé des détenus en France, la libération de la capitaine allemande du Sea-Watch qui évoque une grande victoire pour la solidarité, une campagne d'informations sur la pilule du lendemain en ce début d'été et puis les Américaines à une victoire désormais d'une quatrième étoile.
Et à 8h20, on parlera évidemment des postes clés de l'Union, on parlera aussi du Mercosur et de la ligne politique des Insoumis. Le député LFI du Nord, Adrien Quatennens, est l'invité du grand entretien de la matinale aujourd'hui. Le standard est ouvert, vous le savez, vous pouvez intervenir dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter. Deux femmes, donc, au poste clé de l'Union européenne. Cela n'était jamais arrivé. Les 28 chefs d'État et de gouvernement ont fini par trouver un accord après 48 heures d'ultime négociation. La ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, succède donc à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. Et c'est Christine Lagarde, à la tête du FMI depuis 8 ans, qui va diriger la Banque centrale européenne. Une nomination défendue avec force par Emmanuel Macron.
Elle a été pendant plusieurs années ministre de l'économie et des finances, à une époque particulièrement difficile, en affrontant des crises, en particulier la plus grande crise financière et de dette souveraine des dernières décennies. Elle a ensuite été à la tête du Fonds monétaire international, ce qui me paraît qualifié très profondément pour avoir les qualités requises, d'une part pour maîtriser la politique monétaire, d'autre part pour avoir une crédibilité face au marché. Donc l'analyse à l'unanimité du Conseil a été que les capacités et compétences de Madame Lagarde la qualifient totalement pour ce poste.
Une Française et une Allemande pour renforcer la coopération entre Paris et Berlin restait à compléter le casting européen en respectant les équilibres politiques et géographiques. Les dessous de ces nominations avec la correspondante permanente de France Inter à Bruxelles, Angélique Bois.
Pour que l'édifice tienne debout, il fallait d'abord respecter les urnes. Pas question pour la droite européenne, arrivée en tête aux élections, de renoncer à la Commission. Après avoir écarté l'Allemand Manfred Weber et le Français Michel Barnier, l'un refusé par Macron, l'autre par Merkel, le nom d'Ursula von der Leyen est alors sorti du chapeau, une idée du président français, selon une source proche des négociations. Mais pas question de laisser les clés d'une institution aussi influente à l'Allemagne sans avoir un poste de même niveau pour la France, d'où Christine Lagarde. Restait à servir les socialistes, ce sera le poste de haut représentant aux affaires étrangères pour l'Espagnol Josep Borrell et la présidence du Parlement. Les libéraux dirigeront le Conseil européen avec le Premier ministre belge Charles Michel, un Belge habitué donc des compromis dont a bien besoin cette institution et qui devrait en dépoussiérer le fonctionnement sous l'influence d'Emmanuel Macron dont il est proche. Hier, c'est avec une grande feuille de paperboard sous le bras que le président français faisait le tour des délégations pour tester les différents scénarios. Par souci d'efficacité, les 28 ne seraient entrés dans la salle du Conseil qu'une fois le montage validé. À Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Et dernier poste à pourvoir, ce devrait être fait aujourd'hui, la présidence du Parlement européen à Strasbourg qui pourrait revenir à un socialiste italien ou bulgare. Le Parlement qui doit aussi confirmer par un vote à la majorité la nomination d'Ursula von der Leyen lors de chaque prochaine session. Une nouvelle équipe donc pour diriger l'Union européenne et qui va hériter d'un premier dossier lourd, celui du Mercosur, accord de libre-échange entre l'Union et quatre pays sud-américains. Un accord qui divise le gouvernement, la France jugera sur pièce et ne signera pas à n'importe quel prix, a déclaré hier Didier Guillaume, alors que des centaines d'agriculteurs ont manifesté hier soir un peu partout en France pour dénoncer une concurrence qu'ils jugent déloyale. Et c'est un autre traité qui est aujourd'hui sur la table du Conseil des ministres, le CETA, traité de libre-échange entre la France et le Canada, qui doit être ratifié par l'Assemblée mi-juillet, traité qui divise également les députés, François Rosy.
Non, l'opposition n'a pas que le mot Mercosur à la bouche. Le CETA va être soumis au vote des parlementaires dans deux semaines. Et Et le député communiste des Bouches-du-Rhône, Pierre Dharréville, n'hésite pas à faire le lien entre les deux traités.
Le CETA, c'est le grand frère du Mercosur. On est dans le même registre. Donc ce traité est un mauvais traité, le CETA. Et effectivement, venir ici au cœur de l'été essayer de le faire ratifier en catimini, c'est inacceptable.
La majorité, elle, l'affirme, les deux accords n'ont rien à voir, ni dans l'ampleur, ni dans les dispositions qu'ils contiennent. Le député LAREM des Français de l'étranger pour le Canada, Roland Lescure.
Sur le CETA, il y a eu énormément de discussions avec les Canadiens pour renforcer tout ce qui est le contrôle, notamment la traçabilité des aliments sur l'accord de Paris. Il est en place depuis 2 ans. Et donc tout ça, on voit bien que c'est un accord qui n'a rien à voir avec le Mercosur, qui est beaucoup plus abouti et qui en plus est favorable à l'Europe et surtout à la France.
Pas convaincu, l'ancien député de la majorité Mathieu Orphelin, aujourd'hui non inscrit, lui veut temporiser.
C'est pas le pire des accords, mais il y a un certain nombre de garanties qui nous manquent, notamment sur la question du veto climatique. Donc je pense qu'il n'y a aucune urgence à ratifier le CETA et je vais poser une motion dès la semaine prochaine à l'Assemblée nationale pour que effectivement la ratification éventuelle soit repoussée à la fin 2019.
Mathieu Orphelin se fait ainsi le porte-voix de Nicolas Hulot, dont il est très proche. L'ancien ministre clamait le week-end dernier son opposition au texte pour des raisons environnementales.
Et à l'issue du Conseil des ministres, Édouard Philippe s'envolera pour la Corse où il passera 2 jours. Première visite du chef du gouvernement sur l'île de Beauté qui commencera par un entretien à Bastia avec Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni.
Il est 7h06. Quel est l'état de santé des 71 000 détenus dans les prisons françaises?
La dernière étude remonte à 15 ans. 8 hommes et 7 femmes sur 10 présentaient alors au moins un trouble psychiatrique. Et le gouvernement lance donc une nouvelle enquête. La ministre de la Justice s'est rendue hier dans une prison de la région parisienne pour rencontrer les médecins pénitentiaires. Sophie Parmentier l'a suivi. Reportage.
À la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, 930 détenus, les médecins pénitentiaires accueillent chaque jour un détenu sur 9. Convocation médicale obligatoire pour les nouveaux arrivants ou visite à l'infirmerie pour un traitement médicamenteux. Les détenus qui passent devant les blouses blanches n'ont souvent jamais pris soin de leur santé avant. Et ils arrivent souvent avec des troubles addictifs ou psychiatriques que le gouvernement souhaite mieux évaluer pour mieux soigner, explique la ministre de la Justice, Nicole Belloubet.
C'est un sujet qui est extrêmement important puisque nous savons très bien, notamment pour les personnes détenues, qu'une des conditions essentielles de leur réinsertion dans la vie sociale, c'est la maîtrise de leur santé.
Est-ce possible de m'envoyer un détenu? Merci.
Dans les prisons surpeuplées, le gouvernement voudrait développer la télémédecine, par exemple pour des consultations de dermatologie ou d'ophtalmologie. Un système qui évite les transports de détenus et pourrait permettre des soins plus rapides, mais il ne faut pas le généraliser, prévient le docteur Béatrice Carton, chef de l'unité sanitaire de Bois d'Arcy.
Il ne faut pas que ça remplace la venue des médecins en établissement pénitentiaire. Si on remplace les postes non pourvus par de la télémédecine, il y a un jour où il n'y aura peut-être plus personne.
Pour attirer les médecins qui ont peur des prisons, le gouvernement veut proposer des stages en milieu pénitentiaire pour les internes en médecine partout en France.
Reportage de Sophie Parmentier. Le chef du service de soins palliatifs du CHU de Reims qui a ordonné hier l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert demande que l'accompagnement de son patient soit le plus paisible, intime et personnel possible. La famille se déchire sur le sort de cet homme tétraplégique en état végétatif depuis plus de 10 ans. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30.
Il est 7h08, la capitaine du navire Sea-Watch 3 est libre.
L'Allemande Carola Rackete va pouvoir quitter la Sicile où elle était assignée à résidence. Une juge italienne a en effet invalidé hier soir son arrestation pour avoir accosté de force à Lampedusa afin de faire débarquer 40 migrants. Au grand dam du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini qui s'est dit indigné et dégoûté de cette décision. En Allemagne où la mobilisation était considérable depuis ce week-end, c'est au contraire, Ludovic Piétenu, un grand soulagement.
Chaque matin depuis son arrestation, les amis et les soutiens de Carola Rackete manifestaient sous les fenêtres de l'ambassade italienne à Berlin. « Quelqu'un qui sauve des vies humaines ne peut pas être un criminel », avait déclaré dimanche soir à la télévision le président de la République fédérale allemande, Frank-Walter Steinmeier, dans le sillage d'une diplomatie très active. C'est aussi une grande partie de l'opinion publique allemande qui exigeait sa libération en répondant massivement à l'appel sur le web de 2 animateurs humoristes. La cagnotte ouverte pour aider la capitaine allemande à couvrir les frais de justice a atteint le 1 000 000 d'euros en 3 jours. Un don moyen de près de 30 euros versé pour l'essentiel par des Allemands chez qui l'émotion était vive. Ils voyaient en Carola Rackete une militante des droits de l'homme courageuse et un porte-drapeau de la lutte contre le populisme face à l'italien Matteo Salvini. Sa famille et les membres de l'ONG allemande sont impatients d'assister à son retour au pays. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Des migrants victimes d'une frappe aérienne en Libye. Le bilan provisoire est de 40 morts et 70 blessés. Des migrants qui se trouvaient dans dans un centre de détention, un hangar dans la banlieue de Tripoli, victime d'une attaque attribuée aux forces du général Haftar.
Et en ce début d'été, les autorités de santé, Agnès, lancent une campagne d'information destinée aux jeunes sur la contraception d'urgence.
Que l'on appelle communément pilule du lendemain et que l'on peut prendre après un oubli de pilule, justement un rapport non protégé ou une rupture de préservatif. Les jeunes connaissent-ils ce moyen de contraception? Une campagne digitale est diffusée jusqu'à la fin du mois sur les réseaux sociaux. Véronique Julia.
Les idées reçues peuvent être tenaces. 40% des moins de 30 ans pensent encore qu'une contraception d'urgence n'est efficace que si elle est prise dans les 24 heures qui suivent le rapport non protégé. 1% d'entre eux seulement connaît le délai maximum pour la prendre, jusqu'à 5 jours. L'arrivée d'un nouveau médicament dans les années 2000 a en effet permis d'allonger le délai. C'est donc ce que rappelle précisément le message diffusé sur les réseaux sociaux. Surtout ne pas se dire au bout de 2 jours qu'on n'a plus de solution. Il est toutefois conseillé de prendre cette pilule dans les 12 heures, si c'est possible. Le ministère rappelle que ça ne doit pas être un mode de contraception régulier, mais bien ponctuel. Cette contraception est accessible facilement en pharmacie, planning familial ou centre d'information. Elle est disponible gratuitement, de façon anonyme et sans ordonnance aux mineurs de plus de 15 ans. En 2016, 11,5% des femmes âgées de 15 à 29 ans exposées à un risque de grossesse non prévue ont eu recours à ce type de médicament. Plus d'un million de pilules du lendemain sont délivrées chaque année en France.
Yes, they can. Les Américaines sont en finale de la Coupe du Monde féminine de foot. Hier soir à Lyon, elles ont battu les Anglaises 2-1 et sont bien parties pour accrocher une 4e étoile à leur maillot. C'est en tout cas l'avis de leurs supporters qui ont suivi hier soir la rencontre dans un bar de Washington. Grégory Phillips y était.
Le Lucky Bar, le bien nommé, quant à la 67e minute, l'arbitre refuse aux Anglaises un but pour hors-jeu, puis 13 minutes plus tard, quand l'Angleterre rate un pénalty. Mais pour les supporters américains, fans de soccer, cette nouvelle victoire de la Team USA ne doit rien à la chance. J'étais au lycée avec l'une des joueuses, dit Eric, Crystal Dunn, et je sais qu'elles travaillent très dur toute leur vie pour arriver à ce niveau. Et je suis certain que cette Coupe du Monde, encore, on va la gagner. Il est vrai que la domination des Américaines dans ce sport est sans partage. 3 titres de championne du monde, 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Et pour Crystal, qui supporte la Team USA, il y a une explication. Nous, les Américaines, ça fait longtemps, au lycée par exemple, qu'on considère que dans la pratique du sport, hommes et femmes sont égaux. Ça fait la différence et le reste du monde est en train de comprendre cela. Alors bien sûr, l'une des stars de l'équipe, Megan Rapinoe, légèrement blessée, est restée hier sur le banc des remplaçantes. Rapinoe est formidable, reprend Eric, mais toute l'équipe l'est. Même les remplaçantes sont meilleures que les équipes des autres pays. Je veux dire, les Américaines, c'est comme si elles avaient 2 équipes A. Il en suffira d'une dimanche pour peut-être remporter un 2e titre mondial consécutif, 4 ans après la victoire au Japon. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et dimanche, ce sera donc contre la Suède ou les Pays-Bas. La seconde demi-finale a lieu ce soir, toujours à Lyon et toujours à partir de 21h.
Merci Agnès Soubiran.